Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons voir la deuxième partie concernant une arme spirituelle. Je vais y revenir. Depuis quelques semaines, nous sommes arrêtés, là, Éphésiens 6, sur les armes de Dieu, les armes spirituelles qui sont importantes pour chaque croyant. Alors, lisons les versets qui concernent cette méditation biblique, Éphésiens 6, verset 10. Paul dit au reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les hommes, la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons donc parlé de la vérité, c'est une arme. Nous avons parlé de la justice, c'en est une autre. Nous avons parlé du zèle, encore une autre arme. Et nous avons surtout également parlé du bouclier de la foi. La foi, c'est une arme. Et puis, dimanche dernier, nous avons vu en première partie cette autre arme qui fait partie de, normalement, la panoplie, l'uniforme, l'habit de tout croyant. C'est le casque du salut, le salut. Je voudrais juste introduire en soulignant ceci, du moins ce que j'ai mis en évidence à la conclusion de la première partie dimanche dernier, c'est que, en effet, nous l'avons médité, étudié, c'est que l'apôtre Paul va dire « prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi ». Nous en avons donc parlé. Et le bouclier de la foi est important, parce qu'il va protéger notre cœur de toutes les flèches enflammées du diable, on en a parlé. Mais en même temps, l'apôtre Paul dit « prenez aussi le casque du salut ». L'apôtre Paul, nous l'avons dit, son casque, comme toutes les autres armes, était bien en place. Et je vous ai posé la question, mes frères et sœurs, parce que c'est cela qui est important. Toutes les armes de Dieu que nous avons lues, méditées, étudiées, il en reste une, l'épée de l'esprit, on le verra plus tard. Toutes ces armes sont-elles bien en place dans votre vie spirituelle? Pourquoi c'est important? C'est important afin de vous permettre de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Le diable est rusé. Il cherchera par tous les moyens de nous décourager, et je vais y venir, c'est la suite. Il va chercher par tous les moyens de nous arrêter, de nous éloigner de l'Église, de sa parole. Le casque du salut met en évidence qu'il ne faut surtout pas prendre le combat spirituel à la légère. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Ce n'est pas contre les hommes, hein, c'est pas contre le pasteur, contre les chrétiens, contre votre voisin, que vous devez combattre. Hein. Là, vous vous trompez de combat, ça c'est le désir du diable. Et c'est le désir de la chair. Non, non, nous devons combattre contre l'adversaire de nos âmes, c'est le diable. Et toute son organisation. C'est de lui dont il est question. C'est lui la cible. C'est contre contre lui que nous devons nous défendre. Nous avons parlé du cœur, en relation donc effectivement avec le bouclier, mais je disais ceci, et je le rappelle à mon introduction, c'est que le casque et le bouclier sont très liés. Le cœur, la tête. Et que ce soit le cœur et que ce soit la tête, c'est un endroit, c'est deux endroits où nous prenons des décisions, nous faisons des choix, nous avons des pensées, nous avons des raisonnements. Bref, et cela, ça va bien sûr amener notre vie à, je dirais, fonctionner de la bonne ou de la mauvaise manière. Rappelez-vous que Jésus a dit que c'est du cœur de l'homme que viennent quoi ? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, etc. C'est du cœur. Le cœur est le siège des émotions, des sentiments, des pensées, des raisonnements, mais la tête aussi, c'est lié. Et quand on prend, je dirais, l'information de Paul spirituelle conduit par l'Esprit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, les armes spirituelles, si on prend cela à la légère, on est en danger. Je rappelais dimanche dernier que ce n'est pas une carte de membre qui fait fuir l'adversaire. Ce n'est pas non plus, je dirais, les années de conversion qui fait fuir l'adversaire. Ce n'est pas notre curriculum vitae spirituel qui fait fuir l'adversaire. C'est notre obéissance à la parole. C'est d'être donc revêtu de toutes les armes de Dieu. Et vous avez remarqué, je l'avais dit déjà il y a quelques dimanches en arrière, que l'apôtre Paul dit, il nous dit à chacun d'entre nous, revêtez-vous. Il n'est pas dit, le Seigneur va vous revêtir. Ça veut dire qu'il y a une décision que je dois prendre. Le fait que je sois sauvé, ça ne fait aucun doute. Gloire à Dieu, faut-il que je reste attaché à Jésus. Le fait que je sois ensuite engagé par les eaux du baptême, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, ça ne fait aucun doute, c'est certainement, et c'est vrai, et c'est le cas de beaucoup ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et je disais qu'il y a un danger parce que le diable qui veut singer Dieu, imiter Dieu, pour tromper un peu mieux les hommes, il va aussi utiliser une épée à deux tranchants, entre autres. Une épée à deux tranchants, entre guillemets, mais il a ses propres armes. Et pourquoi pas une épée à deux tranchants lui aussi ? Mais ce n'est pas dans le bon sens, bien sûr. C'est dans le mauvais sens, dans le sens de créer la mort. Le diable crée la mort. Le péché nous amène à la mort spirituelle, séparation d'avec Dieu. Qui a introduit le péché ? Adam et Ève ? Non, le diable. Qui a tenté Adam et Ève par la même occasion, et le péché est entré dans leur cœur. Car le premier qui a péché, avant tout, c'est le diable. Et à cause de cela, il a été précipité. Lui et toutes ces myriades et myriades et myriades d'anges, du moins de toutes ces hiérarchies angéliques qu'il a suivies dans sa précipitation, dans sa folie. Alors comme il n'aime pas Dieu, comme il a décidé de combattre Dieu jusqu'au bout, il ne sera pas vainqueur, hein, mais il a décidé de le combattre jusqu'au bout, donc de combattre les chrétiens, donc de combattre l'Église, donc de combattre la parole, donc de combattre le cœur des hommes pour que surtout ils ne s'ouvrent pas à Christ, il va ainsi semer le désordre, le péché en fait partie, la désobéissance, la folie, l'erreur, car la Bible nous dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus, c'est le bon berger qui donne la vie. Donc le casque est important parce que je dirais que ces deux tranchants, en effet, sont que le diable va souvent utiliser, écoutez bien, c'est le découragement et le doute. L'un entraîne l'autre. Quelqu'un qui est découragé doute. Quelqu'un qui doute va se décourager. Et dans Hébreux 12, verset 3, dans la parole vivante, il est écrit « Pensez à la lutte opiniâtre que Jésus a eu à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité. » Et il rajoute ceci, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Et ne vous laissez pas abattre par le découragement. » Et je rajouterai un mot, « Ne vous laissez pas abattre par la démotivation. » On a besoin d'être courageux, d'être motivé. Quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui fait face, c'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités. C'est quelqu'un qui fait face, c'est quelqu'un qui vit en fonction de ce que Dieu lui demande de vivre. Et je citais ce chant, vous en souvenez, qui dit « Mon cœur voudrait aimer, assez aimer pour pouvoir espérer, tout espérer, la fin de la souffrance, la peine des livrances, je veux assez aimer pour tout espérer. » Nous avons tous ressenti à un moment donné, un autre, le besoin d'être encouragé. Soit dans les choses de la vie en général, soit dans celles de la vie chrétienne en particulier. Le psalmiste dira dans le psaume 38, verset 9, « Je suis sans force entièrement brisé, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Alors on a besoin d'être encouragé. Individuellement, collectivement. Et la volonté de Dieu est de consoler. La volonté de Dieu, c'est de remotiver. La volonté de Dieu, c'est de recréer dans les cœurs, s'il le faut, de l'enthousiasme. Afin de continuer de servir, d'être fidèle, de poursuivre, à annoncer le plein évangile. Je lisais ceci. Quelle est la manière? Quelle est la maladie, plutôt, qui tue? Je vous pose la question. J'ai lu ça il y a pas longtemps, dans un petit livret de méditation. J'ai dit, tiens, je veux le noter. Quelle est la maladie qui tue le plus dans le monde? J'ai entendu quelqu'un qui a fait la même lecture que moi. Alors, que proposeriez-vous? Oui, effectivement, certains diraient le cancer, d'autres le sida, qui fait encore des ravages, d'autres, selon les pays, la malaria, ça tue encore aujourd'hui, d'autres diraient la lèpre, il y a des endroits où la lèpre continue à tuer, etc., etc. Effectivement, je l'ai entendu, et je l'ai souligné, l'épée à deux tranchants qu'utilise le diable, c'est le découragement et le doute, et donc cette maladie, entre guillemets, bien que je pourrais dire après tout, c'en est une, parce qu'elle amène aussi à la dépression, c'est le découragement. Maladie qui frappe toutes les races, qui touche autant les jeunes que les plus âgés, qui touche les hommes et les femmes, qui touche les pauvres et les riches. C'est pas parce qu'on est riche qu'on n'est jamais découragé. Je dirais que parfois les riches sont plus découragés que les pauvres. Ils ont peur de perdre leur richesse. Elle est récurrente, cette maladie. On peut en souffrir plusieurs fois au cours de son existence. Et je dirais, et ça c'est important, cette maladie, le découragement, elle est très contagieuse. Voyons quelques facteurs de découragement pour nous montrer que pour ne pas être touché par cela, il faut rester attaché, revêtu de toutes ces armes spirituelles et donc le casque du salut. Le prophète Jérémie va écrire ce fameux livre qui est appelé « Les Lamentations de Jérémie ». La première fois que je lisais la Bible et que j'ai vu le titre de ce livre, j'ai dit « Oh mon Dieu, si je lis ce livre, il va m'amener en dépression, les lamentations. » En définitive, non, parce que il y a toute une substance d'encouragement à retirer de ce livre, et je vais le faire, très simplement. Donc dans ce livre, les Lamentations de Jérémie, chapitre 3 et verset 19, Jérémie va dire ceci, nous connaissons ce verset pour beaucoup d'entre nous. Il va dire, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue, elle est découragée, elle est au plus bas, au-dedans de moi. Rappelons quand même le contexte. Les lamentations de Jérémie ont été prononcées au sujet d'un événement historique relaté dans la Bible. C'est la prise et la destruction de Jérusalem par les armées de Nebuchadnezzar. Et quand on lit les textes qui correspondent à ce drame, en quelque sorte, parce que c'en est un, à cause de quoi ? À cause de la désobéissance du peuple d'Israël, tout simplement. Dieu est un père, il veut corriger son enfant, par amour. Mais c'est difficile. Prise et destruction de Jérusalem. Ils vont être emmenés en déportation. Et on comprend ici la cause des larmes. J'aurais presque envie de dire, intarissables qui sont versées dans ce livre. Jusqu'alors, quand nous sommes là dans le contexte, eh bien, les jugements de Dieu avaient atteint d'abord les 10 tribus, puis Juda, puis la royauté. Mais maintenant, ça va plus loin, ça va atteindre le centre même de l'existence, de toute la raison d'être d'Israël, centre établi de Dieu, selon sa volonté, sa cité, Jérusalem, son trône, le temple de Jérusalem et son autel. Pour Jérémie, c'en est trop. Alors, il est totalement abattu, écrasé par cette situation. Il pense que, après tout, maintenant, c'est terminé. Mais voici qu'au verset 21, tout change. Alléluia. L'espérance qui était perdue, le courage qui n'était plus là, la démotivation qui s'était installée dans le cœur de cet homme de Dieu, elle va renaître. Et ma prière depuis déjà des semaines et des mois, c'est que cela se manifeste dans tellement de cœurs que je connais qui se sont laissés abattre. Ils se sont laissés décourager parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que la parole de Dieu dit de faire. Celui qui n'obéit pas totalement à la parole de Dieu ne peut pas être heureux. Le Seigneur interpelle nos cœurs au travers de l'exemple de Jérémie. Je rappelle ceci à mon cœur, je le rappelle. Ça veut dire, c'était pas la première fois. Il a essayé très souvent à s'encourager et à s'encourager encore avec les promesses de Dieu, par les bontés de Dieu, par les bienfaits de Dieu, par l'amour de Dieu. Et je rappelle ceci à mon cœur. Voyez, on y revient, le cœur. Il aurait pu dire, je rappelle ceci à ma raison, à mes sentiments, à ma pensée, à mes raisonnements. Je rappelle ceci, c'est important. C'est ce message que je veux transmettre à mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est que ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent. Et elles se sont renouvelées ce matin quand vous vous êtes levés. Et elle se renouvelle encore maintenant par la grâce de Dieu qui est présent dans ce lieu. Elles se sont renouvelées pour qui le désire. Elles se sont renouvelées pour celui qui a le cœur ouvert. Elles se sont renouvelées pour celui qui dit « Je rappelle les vérités de Dieu, de Jésus dans mon cœur. » Oh, que ta fidélité, Seigneur, est grande. C'est la première raison pour espérer. C'est de s'appuyer sur cela. Certes, la situation n'est pas tellement agréable. Certes, c'est dramatique. Certes, c'est tragique. Certes, ça peut faire monter des larmes et des souffrances dans notre cœur. Mais je compte sur les bontés de Dieu et sur ses compassions, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Il y a une chose que j'ai apprise depuis tant d'années que je marche avec Dieu. Et je m'adresse particulièrement à ceux qui sont des nouveau-nés spirituellement et qui ont encore besoin d'affermir un peu plus leur foi et leur existence dans la réalité de la parole, c'est que quand je m'aperçois que je ne peux plus rien faire dans une situation, je ne m'entête pas, je ne m'obstine pas, je me jette à nos genoux et je prie pour que les bontés de Dieu et les compassions de Dieu s'exercent à l'égard d'une situation, d'une personne, d'un couple, d'une famille, d'un cœur, tout simplement. Et Dieu fait des miracles. Mes frères et sœurs, si Dieu n'était pas bon, il y a longtemps qu'Israël n'existerait plus. Je vais plus loin. Si Dieu n'était pas bon, il y a longtemps que l'Église n'existerait plus. Parce que, après tout, nous qui sommes là, excusez du peu, le Seigneur a un regard sur nous, mais il sait très bien qui nous sommes, où nous en sommes, ce que nous pensons maintenant, comment nous réagissons maintenant à l'écoute de sa parole. Mais Dieu nous aime. C'est plus fort que lui. Si je puis m'exprimer ainsi. C'est son essence, Dieu est amour. Et donc, comme il nous aime, il veut pas que nous reculions, il veut que nous avancions. Il veut pas que nous restions coupés de sa bénédiction, il veut que nous revenions. C'est ça. Il y a la justice, il y a l'amour. Il y a la colère de Dieu, mais il y a l'amour. Et le Seigneur est en train de dire à Jérémie, « Regarde ce que j'ai déjà fait, mais je le ferai pour Israël. » Certes, ils vont rester 70 ans en captivité, mais ils vont revenir. Et quelle bénédiction quand ils vont revenir. Le temple va être remis en place à Jérusalem. Les murailles vont être reconstruites, conduites ainsi dans ses travaux par Néhémie, tous ceux qui étaient avec lui. Et la muraille s'est reconstruite en 52 jours. Il y a eu le miracle de Dieu. Le Seigneur va faire de grandes choses. Mes frères et sœurs, l'Église a encore devant elle de beaux jours. Même si le monde est difficile, l'Église a de beaux jours. L'Église n'a rien à voir avec le monde. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Chaque croyant, dans chaque nation éprouvée, je vous pose la question, ne devrait-il pas dire aujourd'hui ces mêmes paroles ? Tes bontés ne sont pas épuisées ? Tes compassions ne sont pas à leur terme ? Je vous dis un secret, je le dis souvent à Dieu dans mes prières. Bon. Et chaque fois que je le dis, ça me fait du bien. Vous aussi ? Seigneur, que ta fidélité est grande. C'est vrai que certains caractères sont portés naturellement à se décourager dès qu'il y a difficulté, opposition, on n'est pas les mêmes. Il y en a certains qui sont persévérants, d'autres un peu moins. D'autres, ils ont un bon caractère, d'autres non. On est différents. Dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a une opposition, certains se découragent rapidement. C'est dans leur nature. Mais il faut apprendre, ça s'apprend. À combattre cette éventuelle tendance naturelle si c'était votre cas. Ça s'apprend avec Dieu. C'est dommage que vous vous laissiez décourager, l'âme découragée. C'est dans votre tendance naturelle, mais cette tendance naturelle, elle doit changer. Parce que vous n'avez pas fini de vous décourager. Parce que quand on voit ce qu'on voit, c'est rien comparé à ce qui va se passer. Je vous le dis non pas parce que, eh bien, je suis un voyant. Ça, c'est pas une bonne chose aux yeux de Dieu. Non, mais parce que la Bible le dit. Tout simplement, ouvrez votre Bible, lisez la Bible, lisez les prophéties bibliques. Un prédicateur disait que la vie chrétienne, elle est comme une ligne droite sans haut ni bas. Il affirmait que la vie d'un chrétien ne peut pas être en dents de scie. Et il rajoutait, si ta vie est comme ça, il y a un problème. Écoutez, on pourrait dire oui, dans un sens, c'est pas faux, mais je préfère aller dans l'autre sens, je dis quand même, c'est faux. Quitte à contredire ce prédicateur, que Dieu le bénisse. Parce que médicalement parlant, mes frères et sœurs, un tracé droit, ça montre quoi ? Ça montre qu'il est mort. Bizarre, non ? La véritable vie chrétienne, c'est celle qui connaît des moments puissants dans la présence de Dieu là-haut, dans la montagne, pour reprendre l'image biblique, qui nous régénère, qui nous renouvelle complètement, ainsi comme, par exemple, Moïse. Moïse, sur la montagne, il était bien. Mais il a fallu descendre de la montagne et retourner dans la vallée. Et au moment de descendre, il a trouvé quoi ? Des problèmes. Au moment de descendre, il a trouvé quoi ? Descendre. Bon, il y a quelques-uns qui ont suivi. Il a trouvé de l'opposition. Sa vision n'était plus sur le haut, sinon sur la vallée. Et je crois qu'il a été effectivement, le texte nous le montre, il n'a pas été encouragé, il a été découragé en voyant le peuple adorer qui ? Non pas Dieu, adorer un veau d'or. Il nous faut sur notre tête le casque du salut, cette espérance, alléluia. L'apôtre Paul dira dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 8 et 9, « Ayant pour casque l'espérance du salut ». Quand nous l'avons, donc, ça va nous éviter tous ces pièges qui nous amènent au découragement et au doute et au découragement. Et de vaincre cette tendance naturelle à être, eh bien, trop souvent vers le bas. Il faut savoir aussi remonter un petit peu. Et Dieu soit béni, les cultes, les réunions, comme vendredi soir, comme hier soir, ce sont des moments qui nous renouvellent, même si on est un peu fatigué, ça arrive, hein, c'est normal, je l'ai dit. Ça montre la vie. Mais il faut pas que ça soit toujours vers le bas. Parce que là, c'est mauvais. Il y a une chute, hein. Il y a une chute de tension spirituelle. Vous êtes alors en hypotension spirituelle. Il ne faut pas être en hypertension. Si c'est le cas, prenez la Bible, c'est un merveilleux antitenseur. Il faut être à la bonne limite. Il faut éviter tous ces pièges que nous tend l'adversaire et notre propre chair, qui est malheureusement opposée très souvent à l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Une tournure d'esprit toujours négative, qui conduit à ne s'entretenir que de choses décourageantes. Et malheureusement, pardonnez du peu, vous avez parfois des chrétiens, des frères, des sœurs et même des pasteurs, mon collègue, qui s'entretiennent toujours de choses décourageantes. Quand vous êtes au milieu, vous ressortez de là, vous êtes à plat, hein. Vous essayez à remonter le niveau dans la discussion, mais ils vous écoutent même pas. Ouais, mais tu comprends rien, pour toi c'est facile. Ah bon? Non, j'ai autant de combats que toi. Mais la différence, c'est que j'ai décidé de regarder à mon maître. Quand on tourne nos regards vers le Seigneur Jésus, bien la Bible dit, notre visage n'est pas découragé, n'est pas démotivé, n'est pas dans le doute, mais il est rayonnant d'encouragement, de motivation, de joie. Bien sûr que ça entraîne la joie. Il faut éviter une manière de voir constamment orientée vers ce qui ne va pas. Il faut éviter de nous laisser affaiblir dans la foi, le bouclier de la foi. La foi, c'est une arme contre l'adversaire. Il faut éviter de nourrir un sentiment d'échec. Vous avez connu des échecs ? Rebondissez. Je vais vous raconter tous les échecs que j'ai connus dans mon ministère pastoral, mais ça me sert aujourd'hui à ne pas recommencer soit les mêmes bêtises ou à faire mieux. Il faut éviter ce piège d'avoir un manque de persévérance. La Bible nous dit qu'il faut persévérer. Alléluia. Dans le livre des Actes, Pierre va dire à ceux qui ont cru, mais homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bien sûr, repentez-vous, etc. Mais il va les enseigner et il va leur dire, persévérer dans quoi? Oui, l'amour, ça m'aurait étonné que je l'aurais entendu. Oui, ça couronne tout. Mais il est précis, l'apôtre Pierre. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu. C'est ce que nous faisons ce matin. Persévérer dans la prière. Persévérer, j'ai déjà dit, l'enseignement de la parole, les prières. La fraction du pain, non mais je ne mets pas dans l'ordre, je fais exprès. La fraction du pain, la Sainte-Cène, c'est ce qu'on a fait. Alléluia, en mémoire du Seigneur. Et puis, je l'ai fait exprès, persévérer dans la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, la communion fraternelle, c'est une force. Parce que mon frère, peut m'encourager quand je suis découragé. Et moi, à mon tour, quand il va être lui découragé, je vais l'encourager. C'est ça la communion fraternelle. C'est exactement ce qui se passe dans notre famille. Quand ma femme est découragée, je l'encourage. Quand je suis découragé, elle m'encourage. Parfois on est découragés tous les deux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va demander de l'aide à des frères et sœurs. Pour qu'ils prient pour nous, à des collègues aussi. Pour qu'ils prient pour nous. Il faut éviter ce piège d'une vision orientée uniquement vers l'apparence des choses et leur aspect extérieur. Attention au ressenti. Le ressenti est faux, très souvent. C'est pas parce que je ressens quelque chose qu'elle est vraie. C'est pas parce que je crois quelque chose que c'est vrai. Il faut faire attention à notre vision, comment elle est orientée. Ne pas tomber dans les pièges des temps de fatigue et de lassitude, de ne pas s'y enfoncer. Des moments de famine spirituelle apparente, attention à cela. Des carences spirituelles, ça peut arriver. Un manque donc, et tout cela est lié par rapport à ça, un manque de communion aussi avec Dieu. De prière, de méditation de la Bible, d'assiduité aux rencontres de l'Église, aux missions de l'Église, à la vie de l'Église. J'ouvre une parenthèse, je suis arrivé une année dans une église, j'étais le nouveau pasteur, et dans cette église, mon collègue donc avait travaillé, avait fait ce qu'il avait pu, puis il m'a dit, Laurent, moi je te laisse tout ce qui a déjà été fait, à toi de l'amener plus loin, je connais ton ministère, tu vas amener plus loin la chose. Agir, ça c'est sûr. Et donc, nous avons commencé, puis il s'est imposé qu'il fallait démarrer telle autre chose, sur le plan de l'évangélisation, etc. Et à un moment donné, on avait donc, c'est dans l'église de Romans-sur-Isère, pour ceux qui la connaîtraient, elle a un chemin de servitude. Donc, il y a l'église dans le renfoncement, il y a un chemin de servitude avec un voisin, et puis ensuite, vous arrivez sur le boulevard. Et ce chemin de servitude, comme son nom l'indique, c'est un chemin de servitude, c'est-à-dire qu'il appartenait aussi bien au voisin qu'à nous. On avait tous les deux la jouissance de ce chemin. Et un jour, j'invite un collègue pour une mission, et le voisin arrête mon collègue, mais mon collègue me l'a expliqué, me l'a rapporté, et lui dit, « Monsieur le pasteur, depuis que votre collègue est arrivé, il n'y a jamais eu autant d'allées et venues. » Je n'ai jamais vu autant l'église ouverte. Et mon collègue dire, Alléluia. Ah bon, vous pensez comme lui? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? L'église, elle vit? Rendez compte si l'église est toujours fermée? Ben, dis donc. Non, l'église est ouverte. Attention également à la méfiance chronique à l'égard des autres. Je lisais le témoignage d'une chrétienne correctement équipée. Elle était correctement équipée de toutes les armes de Dieu. Elle est arrivée un jour dans une petite ville et a eu à cœur d'y voir dans l'avenir une église où le témoignage de Jésus serait proclamé. Elle a donc loué, écoutez bien, elle a donc loué un petit local sur ses propres deniers. Chaque dimanche matin, alors il faut savoir que le lieu en question, et je vais vous dire la ville que c'est, puisque c'était tout au début, et il n'y avait pas d'église, si ce n'est à des kilomètres, elle ne pouvait pas. Donc, y aller. Alors chaque dimanche matin, elle venait ouvrir le fameux local, elle s'asseyait, elle chantait des cantiques, elle lisait et méditait l'écriture, et elle prenait la scène. Toute seule. Elle était toute seule. Elle venait aussi en semaine. Et là, elle priait. Elle méditait la parole, elle lisait la parole à haute voix. Et elle a fait cela avec une persévérance exemplaire pendant 15 ans. Dans l'espoir de voir un jour d'autres chrétiens se joindre à elle, et pourquoi pas avoir un pasteur, voir un pasteur s'installer, et aujourd'hui, c'est fait. Et la ville en question, c'est la ville de Puigcerdà, en Cerdagne, où le pasteur Hilmer Roman et Emmanuel travaillent à la fois sur Puigcerdà, Font-Romeu, Auchéja, et depuis quelque temps sur Andorra-la-Vieille. Mes frères et sœurs, ça a démarré avec une femme qui était revêtue de toutes les armes de Dieu. Elle aurait pu s'apitoyer sur son sort. Elle a dit non, et par la foi, elle a fait ce que je viens de souligner dans son témoignage. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont sauvés, libérés, pardonnés. À Dieu soit la gloire. Il y a tellement de causes, je vais arriver à la fin, j'ai tellement de choses à dire. Il y a tellement de causes extérieures qui peuvent décourager et le diable va s'en servir. Pour ça qu'il faut être avec le bouclier de la foi, avec la vérité, avec la justice de Dieu, avec le zèle que donne l'évangile de paix. Ce casque du salut, puis on le verra dans le dimanche qui vient, l'épée de l'esprit. Les causes sont parfois extérieures, dues aux circonstances et parfois la réaction des autres. Si vous lisez Josué, chapitre 7, vous allez vous rendre compte que il y a eu, à un moment donné, une défaite cuisante. Il y a eu une victoire, Jéricho, mais il y a eu une défaite, Haï. Aïe, aïe, aïe. Et la Bible nous dit que quand les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, ils les ont poursuivis depuis la porte jusqu'à Shebarim, et là, ils les battirent à la descente. Et la Bible nous dit, c'est Israël dont il est question, le peuple, ces hommes, ces femmes, furent consternés et ils perdirent courage. Après Jéricho, il y a une petite ville, petite d'apparence. Je vous rappelle le contexte, il semblait vraiment facile d'en venir à bout sans déranger tous les hommes de guerre. C'est comme ça que la Bible nous décrit la situation. Alors, ils ont dit, on en prend 3000, ça suffira largement, bam, on va les battre. Quand ils sont partis avec 3000, les 3000 sont partis, à votre avis, ils sont partis avec l'encouragement ou le découragement ? L'encouragement. Ils ont dit, on va les battre. Suivez bien mon raisonnement. C'est là qu'est le problème. C'est que parfois, on s'encourage selon nos idées à nous. Et non pas selon les principes et la volonté de Dieu. Et on part, on est tout feu, tout flamme. Personne ne peut nous arrêter. Et puis à un moment donné, bim, ça se bloque, ça se ferme, ça s'arrête. Il y a un échec, ça fonctionne pas. Et là, ça devient vraiment compliqué. On est plus que découragé, on est démotivé, on ne peut plus rien faire. Et même parfois, il y en a qui sont tellement traumatisés qu'ils ne veulent plus servir le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas attendu Dieu. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas attachés aux principes du royaume des cieux. Ils ne se sont pas attachés à la stratégie de Dieu. Ils ne se sont pas attachés à la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Alors au départ, grâce à la victoire de Jéricho, c'est les ennemis qui, eux, eh bien, étaient découragés, qui, eux, étaient concernés, qui, eux, avaient peur. Mais la Bible nous dit que c'est autour du cœur du peuple d'Israël de se fondre, comme s'était fondu peu avant le cœur de ses ennemis. Josué, découragé, lui, le leader, lui, l'homme de Dieu, lui, qui a pris la succession de Moïse. Il est découragé. Alors il tombe sur sa face. Alors comme Jérémie, il se lamente. Mais tout à coup, le Seigneur vient, amen. Et puis il va inviter Josué à se lever. Et puis il va l'aider à comprendre la raison de sa défaite. Il veut l'amener à réaliser pourquoi il en est arrivé là. Et qu'est-ce qu'il va comprendre ? Qu'en définitive, il y avait quelque chose qui n'était pas en ordre au milieu du peuple. L'anathème, autrement dit le péché, empêche Dieu de combattre en faveur des siens. Je pense que ça doit nous permettre de de recevoir une leçon pour nous-mêmes. Victoire et défaite dans la guerre spirituelle peuvent dépendre des ressources dont nous disposons pour vaincre. Mais surtout, mes frères et sœurs, du bon entretien des armes spirituelles, de leur utilisation, du bon entretien de notre propre vie spirituelle. Beaucoup partent en guerre sans les ressources nécessaires, divines, pour la victoire. Ils n'ont pas calculé le coût, ils ne se sont pas assis pour calculer la dépense, comme dit l'Évangile. Ils n'ont pas raisonné, n'ont pas réfléchi. Ils ont cru qu'à un moment donné, à cause de ce qu'ils faisaient, ils allaient devenir indispensables. On n'est jamais indispensable. Demain, on peut mourir, l'Église continuera à avancer. Mes frères et sœurs, il n'y a que Jésus qui est indispensable, il n'y a que le Saint-Esprit qui est indispensable, il n'y a que la vérité de l'Évangile, il n'y a que Dieu dans sa suprématie. Alors quand on n'a pas calculé le coup, on n'est pas prêt pour la bataille. Oh, je vais vraiment là conclure en disant ceci, je parlais tout à l'heure et je terminerai là-dessus. La communion fraternelle, elle change beaucoup de choses, mes frères et sœurs. C'est vrai ou pas ? Regardez, acte 28, verset 15. Paul reprit courage, comment ? En voyant les frères, et j'ai envie de rajouter, et les sœurs. Philippiens, chapitre 2, verset 1er, Paul dit, il y a de l'encouragement dans l'amour fraternel, dans la charité fraternelle. L'adversaire veut susciter des luttes et des tensions spirituelles, visant à fatiguer l'Église, visant à fatiguer le pasteur, visant à fatiguer ses collaborateurs, visant à fatiguer ceux qui viendraient dans l'Église, à force d'oppression et de tension, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il fallait faire, afin qu'ils se découragent. Mais Paul dit, ne perdez pas courage. Paul dit, fortifiez-vous, encouragez-vous, laissez-vous renouveler par la force toute puissante du Seigneur. Amen, 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 alléluia. Car c'est dans la foi en Jésus-Christ que l'être humain trouvera son épanouissement. La vie spirituelle doit passer en premier, Dieu en premier, et le reste ensuite. Il est fort inconfortable de vivre sans assurance, on le croit, et on l'a déjà vécu, peut-être pour certains d'entre nous, et d'être délivré à des découragements, il y a des doutes permanents. Ésaïe 26, 3, tu peux l'afficher, s'il te plaît. Et c'est le mot de la fin. Et on va rendre grâce à Dieu. Ésaïe 26, 3. Alléluia. Vous connaissez ce verset ? Fait du bien. Voilà ce qu'il nous dit le Seigneur. Mais vous pesez tous les mots. Revenez sur ce verset plus tard. Vous pouvez même le lire dans d'autres versions. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, pourquoi ? Parce qu'il se confie en toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sentiments qu'il aura, le chrétien, le croyant, seront des sentiments qui vont dans le bon sens, des raisonnements qui vont dans le bon sens, des pensées qui vont dans le bon sens, des décisions qui vont dans le bon sens, des émotions qui vont dans le bon sens, parce que il se confie en Dieu. Et se confier en Dieu, c'est d'être revêtu également de toutes ses armes, dont le casque du salut, qui est l'espérance du salut en Jésus-Christ, par rapport à ce qui est accompli, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, et par rapport à son prochain retour, car Jésus vient bientôt. Amen. On rend grâce à Dieu. Sois béni, sois loué, Seigneur. Merci de parler. C'est le jeune Samuel, nous dit l'Écriture, qui ne te connaissait pas encore. Mais s'il ne te connaissait pas, c'est parce que l'Écriture nous dit que la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Mais Seigneur, cette parole qui était rare, parce que tu as trouvé le cœur de ce jeune garçon Samuel disponible, alors tu vas la faire à de nouveau, tu vas la faire de nouveau retentir. Et Samuel a dit, parle. Ton serviteur écoute. Seigneur, nous voulons donc te dire, parle. Et tu l'as fait ce matin, tu vas le faire cet après-midi. Et tous les jours de notre vie. Nous voulons que le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que nous avons déjà médité sur ces armes pour que nous les ayons en main, sur nous, avec nous, pour tenir ferme contre celui qui veut notre perte, Jésus, tu le sais, contre celui qui est appelé un voleur, Jésus, tu le connais, le diable. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous voulons être comme Jérémie, repasser continuellement dans notre cœur le fait que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent pour nous chaque fois qu'on va se lever, pour nous permettre d'affronter la journée avec les armes de Dieu. Ô Jésus, merci pour le salut. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour ceux que tu es en train de sauver, ici et ailleurs. Merci pour ceux qui sont en train de revenir et qui s'humilient sous ta puissante main pour que tu les élèves au temps convenable. Merci pour ceux qui prennent la décision aujourd'hui de ne plus rester dans la médiocrité spirituelle, mais de dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux vivre une année scolaire différente des autres au sein de l'Église et avec toi, Jésus. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen.